Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce temps encore de louange, d'adoration. Et j'en suis convaincu, le Seigneur, il est là présent. Il voit nos cœurs, il se réjouit de voir ceux et celles qu'il a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés par l'intermédiaire de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Nous sommes les plus heureux des hommes et je ne sais pas si toujours on arrive à le réaliser à sa juste valeur. Le monde va irrémédiablement à sa perte. Mais nous savons que le Seigneur nous a préparé des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un paradis pour ceux et celles qui auront persévéré jusqu'au bout. Et vous êtes de cela. Et ensemble, nous voudrions encore entendre tout le conseil du Seigneur ce matin, car bien sûr, il veut nous parler et il utilise bien souvent donc sa parole que nous voudrions ouvrir dès à présent. En introduction, juste un texte, Luc chapitre 11 et le verset 1. Je vous laisse le temps de chercher ce passage, quoique il est déjà projeté derrière mon dos. Luc chapitre 11 et le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Et les disciples qui ont vécu aux côtés du Seigneur Jésus près de 3 ans et demi, je crois, ont eu le temps d'observer l'intense, je pèse mes mots, l'intense vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ, l'intense vie de prière que Jésus a déployée durant son ministère. Et si les disciples donc ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, c'est parce que quelque part ils étaient conscients que la source de la puissance du ministère de Jésus a bien résidé, entre autres, dans sa vie de prière. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que nous n'aurons jamais de cesse de réaliser l'importance et même la prééminence de la prière dans notre vie chrétienne. J'ai relevé une parole qu'a exprimée un certain Edward Bounds, et j'aimerais juste vous la lire ce matin. Un certain Edward Bounds a écrit sur la prière et a dit: « La prière est l'affaire de toute une vie. On doit s'y atteler avec empressement, ferveur et attention. C'est d'ailleurs le premier devoir d'un chrétien. C'est son privilège, son exercice spirituel le plus productif. Il est si essentiel de prier qu'il faut le faire sans cesse, c'est-à-dire sans relâche, constamment, assidûment. Et nous devons y consacrer toutes nos forces. Tout présenter au Seigneur, en tout lieu et en tout temps. » J'ai trouvé ce passage intéressant, j'ai dit je vais le partager avec mes frères et mes sœurs. Nous avons tous besoin d'exprimer ce qu'a exprimé en son temps ses disciples: « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et on a eu l'occasion de chanter beaucoup sur le Saint-Esprit, et je crois que ce matin le Saint-Esprit voudrait nous encourager les uns et les autres à pouvoir davantage développer une vie de prière. Je ne dis pas que nous ne l'avons pas les uns et les autres, mais si le Seigneur a placé ces choses sur nos cœurs, c'est bel et bien parce que nous avons certainement besoin de faire des progrès, moi le premier dans ce domaine, et surtout parce qu'il veut nous bénir en retour. Il y a, vous le savez, dans la Bible tellement de passages qui parlent sur la prière, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et j'avais quelque part l'embarras du choix. Et mes regards se sont portés sur ce texte de Matthieu chapitre 6. Et là, on va faire une lecture conséquente, quelques versets juste. Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 13. Alors là aussi, je vous laisse le temps de pouvoir trouver ce deuxième texte que je place devant vos yeux. Matthieu chapitre 6, alors du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous lisons ensemble. Matthieu chapitre 6 et le verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent quoi ? Leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il fera ? Il te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est extraordinaire ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et enfin, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et il termine en disant Amen. Dans juste ces quelques versets que nous avons lus, Jésus enseigne ses disciples. Il répond à leurs demandes. Et il explique premièrement eh bien, comment ils doivent prier. Par exemple, au verset 7 et 8, on voit Jésus dit « Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. » Et puis aussi, il va même plus loin. Il va leur dire ben, « Écoutez, lorsque vous priez, il faut que vous disiez telle ou telle chose. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». C'est extraordinaire. Jésus nous donne un canevas. Un modèle. Alors quand il y a des personnes qui me disent, mais je ne sais pas comment prier, mais tout est là. Le Seigneur nous a mâché. Le Seigneur, il a dit, je vous ai tout dit d'avance. Et il nous a donné eh bien, ce qu'il doit retrouver, ce que le Père doit retrouver au travers eh bien, de nos prières. Mais je constate aussi avec vous que dans le passage que nous venons de lire, Jésus a aussi révélé à ses disciples. Il va révéler quoi ? Le lieu propice. Le lieu secret pour entretenir une vie de prière personnelle et quotidienne. Vous savez, quand il a dit au verset 6, il a parlé de ce fameux lieu secret quand il a fait mention de la chambre. Dieu désire réellement nous rencontrer. Dieu veut nous parler. Les temps sont courts. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. On en a parlé dimanche dernier. Et plus que jamais, c'est le temps de pouvoir eh bien, rencontrer le Seigneur et rester blotti, caché en lui, dans le secret de nos chambres, dans le lieu secret de la prière, afin que nous soyons fins, prêts quand Jésus-Christ reviendra, que Dieu soit béni. On va revenir sur ce fameux verset 6. Alors il y a donc la révélation d'un lieu secret, un lieu propice pour rencontrer Dieu et puis aussi pour voir nos prières être exaucées. Parce que je l'ai déjà dit, si Dieu a institué la prière, c'est ni plus ni moins pour eh bien, exaucer, les exaucer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour nous bénir. C'est pour nous fortifier, c'est pour t'encourager, toi mon frère, ma sœur qui peut être fatiguée ce matin. Dieu seul sait de quelle manière tu es venu, mais tu es venu quand même. Et tu es venu par la foi. Tout à l'heure, tu as chanté. Pourtant, tu n'avais pas à cœur de le faire. Mais le Seigneur, il voit toutes ces choses. Il voit dans le lieu secret. Il voit toutes choses. Il te connaît et c'est lui qui t'a sauvé. Mais à l'inverse, je crois qu'il y a aussi des lieux, alors bien sûr au sens figuré du terme, des lieux qui sont impropres à la prière. Des lieux où, bien sûr, le chrétien ne doit pas se trouver. Des lieux où, de toute façon, Dieu ne voudra pas nous rencontrer. Et je voudrais juste, dans un premier temps, dans un premier volet, vous donner juste quelques exemples, deux ou trois, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Premier lieu auquel je veux faire allusion, c'est le lieu de la méchanceté, le lieu du manque d'amour, le lieu de la vengeance. Et pour cela, je voudrais juste vous donner un exemple, Luc chapitre 9, du verset 51 à 56. Il est bien de donner des exemples comme ça, on explicite, on est clair dans ce que eh bien, nous avançons. Et nous voyons ensemble ce qu'est l'expérience des disciples de Jésus. Il nous est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Mais Seigneur, regardez la prière. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? D'ailleurs, on a chanté le feu. Ce n'est pas le même feu qu'ils réclamaient là. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors vous l'avez compris, on l'a lu ensemble, Jacques et Jean se présentant comme quelque part ces bons justiciers des intérêts du Christ ont proposé à ce dernier de pouvoir formuler cette prière au Père que le feu du ciel puisse descendre et consumer tous ces Samaritains qui n'ont pas fait bon accueil au Seigneur Jésus. Et c'est là où Jésus les a arrêtés net en leur disant « Mais vous n'avez pas le bon état d'esprit. » Au contraire, le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que nous puissions manifester de la miséricorde même à l'égard de nos ennemis. Vous savez, pour faire un parallèle, bien souvent, combien de personnes nous avons partagé, présenté l'évangile et ces mêmes personnes nous ont quelquefois raillé au nez, quelquefois nous ont rejeté, méprisé et même ont été très hostiles à notre égard. Mais est-ce pour autant qu'il faille en retour les mépriser ? Voire même les condamner. Ne devrions-nous pas plutôt continuer à les aimer ? Ne devrions-nous pas plutôt continuer à prier pour eux, afin qu'ils soient éclairés ? Bien souvent, on oublie de là où le Seigneur nous a tirés. Et quelquefois, on était pire que ces gens-là. Vous savez, et vous connaissez ce passage, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, il l'a dit, Matthieu chapitre 5, verset 44, ne le cherchez pas, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il aurait fallu que Jacques et Jean puissent mettre en pratique ce passage. Et au contraire, au lieu de réclamer que le feu puisse consumer ces Samaritains, Seigneur, bénis-les, éclaire-les. Et nous devons avoir cette attitude afin que nous soyons dans le lieu propice pour voir nos prières être écoutées de Dieu, mais aussi être exaucées. Un autre exemple, un autre lieu qui est impropre à la prière, c'est le terrain de l'égoïsme. C'est le lieu de l'égoïsme. Et là aussi, j'ai un exemple pour vous, c'est dans Matthieu chapitre 15, juste deux versets, les versets 22 et 23. Matthieu chapitre 15, c'est juste à passer quelques pages. Et on arrive à ce petit témoignage, ce petit exemple que je place aussi devant vos yeux. Matthieu chapitre 15, versets 22 et 23. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, cria à qui ? À Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dire avec instance, il dire à qui ? À Jésus, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Voilà encore une autre prière. Mais cette fois-ci, c'est la prière qui se trouve sur le lieu de l'égoïsme. Alors, la première partie de cette prière, elle est bien, « Seigneur, renvoie-la. » Et il ne faut pas comprendre forcément, « Seigneur, rabroue-la, rejette-la. » On pourrait sous-entendre, « Seigneur, renvoie-la avec son exaucement. Seigneur, exauce sa prière. » Mais là où le bât blesse, c'est la deuxième partie de la prière. Il donne la raison, la motivation de cette prière, car elle nous casse les oreilles. Les disciples ont prié Jésus en faveur de cette femme, mais juste pour que cette dernière arrête de leur casser les oreilles. Et la vérité, c'est que quelque part, les disciples, en formulant cette prière à Jésus, se souciaient plus de leur confort acoustique, plus de leur tranquillité, que de prendre en compte la vraie souffrance de cette femme. Et je vous regarde, je nous regarde, soyons honnêtes. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois de ces prières que nous formulons à Dieu ? C'est vrai pour autrui, mais quand on regarde le fond, c'est avec des motivations égoïstes et intéressées. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ah. Il faut savoir quelquefois se sonder et peut-être s'asseoir et réfléchir à nos prières. Seigneur, je te demande ceci, cela. Mais finalement, dans quel but ? Dans quelle motivation ? Et c'est intéressant, si on est honnête avec nous-mêmes, peut-être de savoir faire le tri ou peut-être de reformuler nos prières. Quelqu'un disait une fois, ah, je voudrais que mon conjoint, oh, il puisse se convertir. Mais pourquoi exactement? Mais oui, parce que ah, mais là, je serai un peu plus tranquille parce qu'il n'arrête pas de m'embêter. Il n'est pas gentil. On a besoin de prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour qu'ils puissent aussi, comme nous, hériter du salut, pour que ces gens puissent être épargnés, eh bien, être épargnés de la perdition, et pas forcément pour chercher notre bien-être. Remarquez, ça peut être en deuxième position. Mais la première, c'est réellement, alléluia, pour que ces gens soient sauvés. Un autre exemple, un lieu qui est impropre à la prière, c'est l'hypocrisie. Et j'en reviens donc à ce texte d'introduction que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu, au chapitre 6 et le verset 5. C'est Jésus qui parle, et quand Jésus parle, c'est bien de porter attention à ce qu'il nous dit. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas de grâce comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Et je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et c'est vrai qu'il y avait du temps de Jésus, eh bien, des religieux qui pratiquaient la prière, mais juste pour être vus des hommes, pour en mettre plein la vue aux autres et pour être quelque part glorifiés par eux. Et soyons honnêtes aussi, eh bien encore aujourd'hui, il y a ces genres de prières qu'on peut même retrouver dans nos églises. Et il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. Il n'y a que Dieu qui sait si on est vrai et simple. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire le tri entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il connaît nos motivations. Il a dit, la Bible nous dit, il sonde les reins et les cœurs. Et il connaît ses enfants. Et je sais que ce matin, tous ceux qui ont levé la voix, ou même qui ont exprimé une prière dans le cœur, je sais, eh bien, que vous avez été sincères. Je crois que dans la prière, on a besoin de plus en plus bien de venir avec un cœur vrai, un cœur sincère. Parce que s'il y a bien quelque chose que le Seigneur ne peut cautionner, c'est l'hypocrisie. D'ailleurs, il n'y aura pas d'hypocrite dans le ciel. Alors on pourrait comme ça continuer la liste d'exemples comme cela, mais on va juste s'arrêter à cela concernant les lieux impropres à la prière. Et je voudrais maintenant passer comme au deuxième volet de notre méditation et découvrir avec vous ce qu'est véritablement le lieu secret, le lieu propice pour prier Dieu d'une manière personnelle, pour prier Dieu d'une manière quotidienne. Et quelque part, pour cela, il nous faut revenir à ce fameux verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est bien facile à retenir, notre verset clé pour ce matin. Et s'il y avait même un titre à donner à ce message, c'est le lieu secret de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 6 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il fera? Il te le rendra. On aurait mis à la place, il te récompensera. C'est exactement la même chose. » Alors, avez-vous vu déjà le contraste entre les versets 5 et les versets 6? Verset 5 qu'on a étudié un peu avant, l'hypocrite, le religieux, qui vient lui par contre et qui cherche à prier, mais d'une manière publique, dans le but d'être vu des hommes. Et ce que nous venons de découvrir au verset 6, c'est que, eh bien, il y a le chrétien lambda, le chrétien ou la chrétienne, qui lui par contre va rechercher non pas les lieux publics, mais le lieu secret, et non pas pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. Et il y a peut-être une remarque qu'on peut faire. Mon frère, ma sœur, veux-tu être vu des hommes ou veux-tu être vu de Dieu? Ce matin, tu es venu, pourquoi? Pour être vu des hommes ou être vu de Dieu? Je connais la réponse, je sais que nous aimons tous le Seigneur. Mais Dieu, eh bien, il voit toutes choses, il sait toutes choses. Ainsi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et quelque part, j'ai envie de dire, Jésus semble pour nous indiquer un lieu propice, un lieu secret pour nous adonner à la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et la question que je pourrais nous poser ce matin, mais qu'est-ce que Jésus voulait réellement nous dire? Entre dans ta chambre. Est-ce qu'il faisait mention de notre chambre, par exemple, à coucher? Oh, j'ai entendu un grand nom au fond, eh oui. Parce que si c'était question, eh bien, au sens propre du terme, de notre chambre, eh bien, on aurait un sérieux problème dans notre vie dans notre vie de prière. Elle serait bien compliquée. Il aurait fallu, toutes les fois on veut prier, aller dans notre chambre. Non, on a compris que c'est peut-être un peu plus profond que cela. Quand Jésus parle d'entrer dans notre chambre, bien sûr, et le frère l'a dit, il nous invite à pouvoir considérer l'intimité. Vous savez, une chambre, il n'y a pas plus intime qu'une chambre. C'est un lieu de confidence, un lieu où on peut faire les échanges. Je me rappelle quand on était plus jeune avec mes frères et mes sœurs, quand mes parents avaient une grande discussion à partager entre eux, ils se dirigeaient dans leur chambre et ils prenaient le soin de fermer la porte derrière. Des fois, on venait pour écouter, mais mon père, avec son grand doigt, disait « Attention !» Parce qu'ils avaient des choses à dire et ils ne voulaient pas que nous puissions les uns et les autres entendre. Ainsi, Jésus veut nous dire que la prière personnelle et quotidienne devrait se dérouler dans un lieu, j'ai envie de dire, calme, un lieu retiré, un lieu intime de notre vie. Alors bien sûr, pour le coup, ça peut être notre chambre, mais ça peut être très tôt le matin dans notre salon, ça peut être dans notre bureau, ça peut être même pour certains dans une voiture, je ne sais pas. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, trouver cet endroit d'intimité. Je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait pour ceux qui connaissent l'université Paul Sabatier à Toulouse, des grands espaces avec des grands arbres. Et j'avais choisi particulièrement un grand arbre qui m'inspirait. Et il m'arrivait à des moments de sortir de ma chambre universitaire et aller rejoindre le Seigneur sous cet arbre. Il y avait une connotation spirituelle dans ces moments et j'ai vécu aussi de belles choses sous cet arbre. Quand je suis reparti il y a quelques années, j'ai vu que ils ont construit dessus. Mais à l'époque, je me rencontrais et cœur à cœur, je parlais avec mon Dieu. En fait, peu importe l'endroit, ce qui est important, c'est de savoir que le lieu est assez intime, assez secret pour communier tranquillement avec notre Dieu. Un lieu où nous pourrons en toute liberté partager l'intimité avec notre Dieu, où on pourra tout lui dire, nos joies mais aussi nos peines, lui parler aussi de nos victoires et nos échecs. La Bible, le Seigneur nous a parlé ce matin des chaînes, exprimer là où les chaînes doivent être encore brisées. Un lieu où on pourra librement exprimer nos attentes et nos besoins. Oui, entre dans ta chambre, mon frère, ma sœur, et développe cette vie de prière qui est indispensable. Indispensable si tu veux aller plus loin, si tu veux être fin prêt pour le retour du Seigneur. Allons un peu plus loin dans la réflexion. La chambre, elle nous parle certes de l'intimité, mais je crois que la chambre peut être aussi l'image de notre cœur. Le cœur, on le sait, c'est donc le centre de notre personne, le centre de l'être humain. Eh bien, c'est là, dans le cœur de notre cœur, c'est dans le secret de notre cœur que le Seigneur veut nous rencontrer. C'est là où il veut se rencontrer avec nous et avoir quelque part un face-à-face, un cœur à cœur avec nous. Et il y a un homme qui a dit, et je cite ce qu'il a dit, c'est très court, « Prier, c'est rejoindre Dieu au plus profond de soi, là où il s'est installé pour nous inspirer de l'intérieur et pour orienter nos vies. » J'ai trouvé ça très beau. Je répète, prier, c'est rejoindre Dieu au plus profond de soi. La prière, c'est avant tout une affaire de cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Et lorsqu'on se dispose pour pouvoir prier, il faut s'approcher de Dieu d'une manière sincère. Je me rends compte, et je pense que vous vous êtes aussi rendu compte, quelquefois on a formulé des prières formelles, prières, on peut même les qualifier de religieuses dans le sens péjoratif du terme. Mais quand on est simple, quand on est nous-mêmes, quand les masques tombent, quand on est vrai, et souvent, ça on peut le faire en toute simplicité lorsqu'on est seul à seul avec le Seigneur, c'est là où on sent qu'il y a un écho favorable parce que le Dieu de la vérité, sait reconnaître ce qui est du réel et ce qui est du factice. C'est tellement important. Lorsque nous prions, nous devons être vrais et sincères avec notre Dieu. Il faut que nous soyons les uns les autres nous-mêmes. Donc Jésus dit, entre dans ta chambre, entre donc dans ce lieu intime, entre au plus profond aussi de ton cœur. Et il rajoute, puis ferme la porte. Et là aussi, il faut le comprendre dans une dimension spirituelle, bien sûr. Il nous est tous certainement déjà arrivé à un moment donné de pouvoir nous isoler dans une pièce, et puis de désirer fermer la porte, quelquefois même à clé. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être dérangé. À qui c'est déjà arrivé, ça ? Moi, il m'arrive à quelquefois de m'enfermer dans le bureau, alors peut-être pas forcément à clé. Parce que les enfants, ils viennent, ils font du bruit, bah, 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 bah. À des moments, c'est bien de pouvoir s'enfermer. Et c'est légitime. On a besoin, quelquefois, on est occupé, on a besoin de se concentrer. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est pareil. Lorsque nous prions, nous devons nous efforcer de fermer la porte de notre cœur, fermer la porte de notre esprit à toutes les pensées, même à toutes les sollicitations perturbatrices extérieures qui pourraient venir nous déranger, qui pourraient venir nous interrompre dans notre moment intime avec Dieu notre Père céleste. Et Dieu seul sait combien il y a des éléments perturbateurs. J'en donne quelques-uns, pêle-mêle, le téléphone. Monsieur portable. Brrr, brrr. Et c'est bizarre, c'est là où on se dispose, que ce soit à lire la parole de Dieu ou même à prier. Brrr, brrr. Allô? Oh, je sais pas, j'avais envie de t'appeler, te faire un petit coucou, etc. Le portable, l'ordinateur, les réseaux sociaux, on en a parlé dimanche dernier, mais aussi nos soucis, nos doutes. Et pourquoi pas nos raisonnements, et je pourrais rallonger la liste. Bref, tout ce qui pourrait nous perturber ou nous empêcher de prier. Alors mon frère, ma sœur, veille à fermer la porte. Oui, tu rentres, tu as pris ta disposition, tu t'es mis dans ton agenda, dans ton planning quotidien, d'avoir tel moment avec le Seigneur, ce rendez-vous. Et si on te demande, mais où tu vas? Et j'ai besoin de toi. Ah ben non, j'ai un rendez-vous. Ah, tu as un rendez-vous, d'accord. Un rendez-vous avec le Seigneur. Mais avec cela, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte. C'est là où l'ennemi va nous envoyer des suggestions. Est-ce que tu as pensé à telle chose? Est-ce que tu as pensé au repas? Est-ce que tu as pensé à laver le linge, etc. Ça vient de partout. Ça fuse. Et quelquefois, je ne veux pas mystifier la chose, quelquefois c'est purement spirituel. Parce que le diable sait, eh bien, que lorsqu'on se discipline à pouvoir avoir une vie de prière quotidienne, il sait, eh bien, qu'on est capable de faire des bons extraordinaires avec le Seigneur. Et je sais que, eh bien, vous le savez avec moi-même. Frères et sœurs, toutes les fois dans notre quotidien, nous nous disposons à prier Dieu dans un lieu calme et intime, tout en veillant à bien fermer, eh bien, la porte à tout élément perturbateur extérieur, eh bien, à ce moment précis, d'une manière instantanée, nous nous mettons dans le lieu secret et nous nous mettons devant le Dieu, d'ailleurs, qui nous attend avec impatience afin de communier avec nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore ce verset 6. Est-ce qu'il peut être à nouveau projeté pour nous? On va le relire, Matthieu chapitre 6, verset 6. Et effectivement, nous découvrons quoi? Matthieu chapitre 6, c'est le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et alors? Tu es venu pour quoi? Pour prier. Prie! Prie, mon frère, ma sœur. Prie par rapport à ton besoin. Prie par rapport à ta tristesse. Prie par rapport à ta souffrance. Prie par rapport à ce qui te fait du mal. Prie par rapport à ton besoin. Pourquoi? Ton Père qui est là dans le lieu secret. Il dit pas, quand tu vas prier, il va venir. Non, ton Père qui est là dans le lieu secret. En fait, avant même que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte, il t'attendait. Il t'attendait, il était là. Et dès que tu vas ouvrir la bouche avec foi, eh bien, tu vas réaliser la présence de Dieu. Vous savez, notre problème à nous, et surtout au niveau de la prière, c'est le manque de foi. On peut prier, et certaines personnes même se fatiguent. J'ai prié peut-être même toute une nuit, mais si je le fais sans la foi, ça ne servira à rien. Parce que la Bible dit, eh bien, pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord que, eh bien, pour s'approcher, pour être agréable à Dieu, il faut déjà qu'on croie que Dieu existe. La foi. Faire confiance au Seigneur. C'est vrai, le même Seigneur qui a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Matthieu chapitre 18 et le verset 20. Eh bien, c'est le même qui a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Mon frère, ma sœur, crois à la parole. Toutes les fois où tu vas disposer ton cœur à pouvoir chercher Dieu dans l'intimité, eh bien dans le lieu secret, le Seigneur sera présent. Il ne fera pas défaut, il n'enverra pas un mot d'excuse, attends, je ne peux pas, je suis occupé. Il est toujours prêt parce qu'il nous aime, il est plus désireux que nous, eh bien, à pouvoir non seulement écouter nos prières, mais aussi à pouvoir les exaucer. Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et lui, qui voit dans le secret. Il voit ce que tu fais. Il voit ta résolution, il voit ton désir d'aller plus loin, il voit ton désir de pouvoir sortir de cette routine, un bien peut-être spirituelle et nocive. Il veut un bien réellement répondre à ton besoin. Il te voit toutes les fois où tu fais l'effort de prier. Et il te dit, et là aussi c'est une promesse, il te récompensera. Quand on prie, un bien on est sûr, en retour, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va nous récompenser. La prière, ce n'est jamais une perte de temps. Au contraire, lorsqu'on prie, on gagne du temps. La Bible dit, dans Éphésiens, rachetez le temps. Quand je prie, je gagne du temps. Quand je prie, je suis à l'heure. Quand je prie, je suis à l'heure de l'horloge, de Dieu. Quand je prie, je suis en connexion avec Dieu. Quand je prie, je suis en position de force. Ce n'est jamais donc du temps perdu. Au contraire, c'est un temps que nous gagnons devant Dieu et devant les hommes. Des grâces, mais aussi des bénédictions sont en réserve pour celui ou celle qui se discipline, qui se dispose à passer chaque jour du temps dans l'intimité avec Dieu. Je nous pose la question, est-ce que nous avons une vie de prière conséquente? Quelle est ta chambre à toi? Quel est ton lieu secret? Dans tout ton planning, de la même manière que tu te fixes un temps pour aller au travail, et là on calcule pas, on se lève, on sait. Est-ce que nous avons cette habitude, cette sainte habitude de pouvoir nous rencontrer et dans ce contexte-là, seul à seul avec Dieu, recevoir tout ce dont on a besoin? Parce que lorsque nous acceptons enfin d'entrer dans l'intimité avec Dieu, pour développer cette communion avec Dieu, des forces spirituelles nous seront accordées. De précieux conseils nous seront prodigués. Des victoires et des délivrances nous seront accordées. Ça rejoint ce qui a été dit dans le don spirituel. La joie et la paix seront notre partage. Il n'y a pas plus triste, quelqu'un disait, il n'y a pas plus triste qu'un triste chrétien. Parce que nous avons toutes les raisons du monde pour être heureux, nous avons tout pour être heureux, et pourtant nous avons encore la tête baissée. Dieu est vainqueur, Dieu nous a tout donné. D'ailleurs, Jésus, dans une extrême souffrance, a dit, mais tout est accompli pour que tu sois heureux, pour que tu sois victorieux ce matin. Dans l'intimité avec Dieu, nous serons inébranlables, indéracinables. Il y ait Covid ou pas, Corona ou pas, qu'il y ait problème, épreuve, on le voit avec tellement d'exemples dans la Bible, d'hommes et de femmes qui étaient indéracinables, qui étaient inébranlables. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une communion personnelle avec le Seigneur qui se réalisait par le biais de la prière. Lorsqu'on prie, on est intouchable aux yeux de l'ennemi. Il nous voit de loin, il nous haït de loin, mais il ne peut pas s'approcher. Une lumière, parce qu'une lumière, et ce n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur Jésus, se manifeste. Et là, il est en horreur, lui, le prince des ténèbres. Lorsqu'on prie, Dieu se révélera à nous, comme il a fait pour tellement d'hommes. J'ai cité pour vous, par exemple, Moïse. Ah, pour le coup, lui, sa chambre à lui, c'était ce sommet de cette montagne. Et comprenez que pour monter cette montagne, puisqu'il l'a fait au moins deux fois, et là où il est resté 40 jours et 40 nuits, il n'a pas fallu 5 minutes seulement. Donc la prière, ou instituer une vie de prière quotidienne, demande de notre part un effort. Et si je ne suis pas prêt à faire cet effort, pour celui qui m'a aimé d'un si grand amour, alors il y a problème. Mais Moïse prit le temps de monter. Il est monté, avez-vous remarqué, les mains vides. Il est redescendu avec les mains pleines, avec les lois divines, les lois de Dieu, sur lesquelles, après des milliers d'années, des milliers et milliers d'années, nous sommes encore à plonger sur la révélation qu'a reçue cet homme, parce qu'il a choisi d'entrer dans la chambre, entrer dans cette chambre et fermer la porte derrière lui pour avoir ce tête-à-tête avec Dieu. Que dire aussi du jeune Samuel? Pour le coup, lui, c'était dans sa propre chambre, mais il n'avait pas trop bien compris que c'était vraiment le lieu où Dieu voulait le rencontrer. Et à plusieurs reprises, Dieu s'est révélé à lui jusqu'à ce qu'il ait entendu la voix de Dieu et il reçut de merveilleuses révélations. Et c'est pareil pour Pierre, quand à un moment donné, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'il monte sur le toit d'une maison, il avait faim, c'était vers les coups de midi. Et là, alors qu'il était en prière, nous dit la Bible, Dieu lui apporte des révélations qui allaient bouleverser la suite de sa vie et même bouleverser sa vision même. C'est certain, lorsque nous persévérons dans la prière personnelle, des grâces, des bénédictions de toutes sortes vont commencer à jaillir. Il m'est arrivé même à des moments, je l'ai déjà dit, je le dis parce que c'est la réalité, sortir des moments de prière mais véritable, vrai, pour chercher Dieu, pour être, avoir un contact avec lui et en ressortir et aller bien me regarder dans le miroir parce qu'il y avait comme un espèce de reflet. Il y avait quelque chose, une grâce qui était là, qui posait. Il y a une bénédiction. Dieu ne nous renvoie jamais à vide. Il dit, quand tu pries, prie. Et le Seigneur qui est là dans le lieu secret et qui voit dans le secret te le rendra d'une manière. Tu repartiras avec l'odeur du Seigneur. Excusez-moi l'expression. Tu repartiras avec le parfum du Seigneur. Tu repartiras avec la main de Dieu, avec une empreinte de Dieu sur ta vie. Tu vas peut-être entrer dans ta chambre énervée, tu vas en sortir calme. Tu vas peut-être entrer dans la chambre bien avec tes soucis, mais tu vas en sortir avec une solution, avec peut-être une promesse. Parce que Dieu veut combattre pour nous. Mais l'avons-nous compris ? Alors en conclusion, que dire ? Dieu désire que nous développions une communion profonde, quotidienne avec lui, à travers une vie de prière conséquente. Mais pour cela, il nous suffit de nous discipliner à entrer dans l'intimité de la présence de notre Dieu. Bien sûr, veillant à fermer la porte de notre cœur et nos pensées à tout élément perturbateur extérieur. Et bien sûr, en priant Dieu par la foi, en réalisant qu'il est bien là. Jésus, de la même manière qu'il est là, il sera là tout à l'heure. Quand tu vas choisir ce temps, d'intimité avec le Seigneur. Il y en a, ils sont plus matinales. D'autres, c'est plus le soir, très tardivement, peu importe. D'autres, c'est dans la journée. C'est pas, même pas finalement le lieu. C'est vrai que c'est plus préférable le matin, puisqu'on anticipe toutes les activités et tout ce qui pourra se passer dans la journée. On prend de l'avance. Remarquez, celui qui prie la nuit, il prend encore plus d'avance. La prière, c'est ce qui nous permettra d'être ferme et inébranlable dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas si on peut concevoir une vie chrétienne sans vie de prière. Dire qu'on est chrétien sans avoir de contact avec celui qui est notre Seigneur. Parce que chrétien même veut dire petit Christ. Alors si je n'ai pas aucune communion, aucune relation, si je ne cherche pas à développer cela, je ne sais pas. Point de suspension. La prière, c'est aussi ce qui va nous permettre d'être prêts lorsque Jésus viendra chercher les siens. Et Jésus a dit, je termine par ce verset, Luc chapitre 21 et le verset 36, et puis après quoi nous allons prier. Jésus qui nous parle à chacun d'entre nous ce matin, qui nous parle d'une manière individuelle, mais d'une manière aussi collective. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses qui arrivent là, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et le Seigneur, il fait comme il veut. Il peut nous les révéler comme il peut nous donner à les découvrir. Mais si je veille et je suis en communion avec le Seigneur par le biais de la prière, qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas, je suis debout, inébranlable, et je pourrai paraître debout lorsque le Fils de l'homme viendra sur les nuées et lorsqu'il viendra prendre son église. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous aide à les vivre. Ayons cette vie de prière quotidienne, intense avec le Seigneur. Et des choses vont changer dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir parlé de cette manière. C'est extraordinaire, tu ne nous parles pas pour nous faire plaisir. Seigneur Père, mon Dieu, tu ne réponds pas même, Seigneur Père, à nos attentes, parce que finalement, au-delà de ça, tu sais ce qu'est réellement nos attentes et nos besoins. Et si tu nous as parlé de cette manière aujourd'hui, c'est ce dont nous avions besoin d'entendre. Voilà la question, Seigneur, que ferons-nous de ce que tu nous dis ? Je te prie, Seigneur, d'une même voix, nous nous unissons et nous implorons ta grâce, afin que tu répandes sur nous un esprit de prière, un esprit de grâce, et que tu nous donnes à pouvoir plus que jamais, Seigneur Père, développer cette vie personnelle de prière, afin d'être inébranlable, afin d'être indéracinable, afin d'être intouchable de la part de l'ennemi, Seigneur Père éternel. Je te prie, Seigneur Père, donne-nous à être vrai, aide-nous à entrer au plus profond de notre cœur et là te rencontrer, Seigneur Père, avoir ce face-à-face avec toi et apprendre à tout te dire sans rien cacher, apprendre à être vrai. Seigneur, tel que nous sommes, tu nous invites à venir vers toi. Seigneur, apprends-nous aussi lorsque nous sommes entrés dans notre champ et avant de refermer la porte, Seigneur, te laisser entrer car toi-même tu le dis, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, comme lui avec moi. C'est toi qui désires plus que nous. Seigneur, que nous puissions avoir cette vie intense de prière, afin qu'en retour nous puissions être, Seigneur, plus que vainqueurs, jour après jour. Seigneur, remplis de joie nos cœurs, remplis de paix nos cœurs, Seigneur. Seigneur Père, mon Dieu, reconsidère encore nos voies. Aide-nous, Seigneur Père éternel, à pouvoir, Seigneur Père, mon Dieu, mettre de l'ordre dans nos agendas, à pouvoir prendre ce temps avec toi, ce temps de qualité, ce temps précieux pour chercher ta face, pour entendre ta voix, pour savoir, Seigneur Père, mon Dieu, se laisser conduire par toi. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, la prière que tu as mis en place, que tu as créée. Ces choses viennent de toi et je te remercie pour cela. Bénis l'Église d'Istres. Bénis encore, mon Dieu, notre avenir. Bénis encore, Seigneur, notre présent. Seigneur, donne-nous à serrer ces choses dans nos cœurs afin que nous soyons victorieux les uns les autres. Au nom de Jésus, amen et amen. Et le peuple de Dieu dit amen. Amen.